le cœur bandant. L'équipier se voulait sûr de lui et fort. Il avait cette certitude de pouvoir résister à tout. Privilège d'inconscience d'une jeunesse arrogante. Avant même le départ, il jouait les gros bras dans les bistrots de la ville, en évitant les rades de marins où il sentait confusément qu'il se serait vite fait remettre à sa place. Le premier gros temps, un force neuf sur l'échelle de Beaufort, lui avait collé une telle trouille qu'il en fut complètement déstabilisé. Il ne barrait pas dans ce coup de vent avec la souplesse nécessaire à une bonne négociation des lames, mais contracté, attaché par son harnais de poing, il se tenait aux filières d'une main crispée et ne barrait que par à coup sur l'énorme barre à routre et démultiplié. Comme les bons apéros, au cours de ce coup de vent, il mit 5 volumes d'humilité sur son volume de morgue. Il regardait ses compagnons de bord et ne comprenait ni ne cherchait à comprendre leur calme et leur détermination à durer plus que le coup de vent. Il était animé de réflexes de bête pré-logique et ne comprenait pas leur détermination à soutenir le siège du gros temps. Les alizés et le beau temps venant, il recommença à gonfler l'équipage de ses « moi-je » et de cette suffisance verbale insupportable. Entre autres, il passait son temps à se vanter de performances sexuelles hors du commun, dont personne n'avait rien à faire. Il se prenait pour un lion, 50 fois en 24 heures, cause toujours tu m'intéresses. L'équipage ne relevait pas pour abréger ses consternants monologues, mais il insistait. L'équipage avait remarqué chez lui une sorte d'hypersensibilité à la souffrance, au froid et au sale. Une peur de la douleur physique ainsi que de tout ce qui était simplement biologique. Il ne semblait pas avoir correctement fini la période pipi-caca de toute enfance normale. Un beau jour d'Alizé, la première dorade, la première coryphène au reflet magique mordit à la ligne de traîne. L'équipier de quart, un barbu négligé et rustique, parvint à remonter à bord le poisson de plus d'un mètre vingt de long. S'ensuivit dans le cockpit du voilier maculé de sang, le corps à corps traditionnel entre l'homme avide de protéines animales et le superbe poisson sportif. Le matuvu, perché sur le rouf, suivait le combat d'un air un peu dégoûté. Enfin, l'agonie prit fin dans les derniers soubresauts de la bête plantée au couteau juste derrière l'œil. L'équipier tueur eut alors le réflexe de donner une bonne leçon au branleur. Couvert d'écailles et de sangouin, il ouvrit d'une lame rapide le ventre de l'animal encore frémissant en appelant son skipper à grands cris et lui en demandant s'il en voulait la moitié. Le skipper, sans savoir ce qui allait se passer, lui répondit en voyant venir la blague au ton employé « Non, non, c'est la tienne, garde tout, vénard. » Le pêcheur, une lueur sauvage dans les yeux, extrayait à pleine poignée le paquet de viscères des entrailles de la dorade. Il retira du lot de tripoux le cœur gros comme une noix et qui battait encore entre son pouce et son index. Se tournant vers l'équipier frimeur au regard effrayé, il lui en proposa la moitié. L'autre, dégoûté et ne comprenant pas, refusa. Alors calmement, le pêcheur engloutit le cœur palpitant et commença à le mâcher ostensiblement. L'organe frémissant laissait fuser un peu de sang rouge de ses lèvres sur sa barbe blanche. Il imitait l'extase de celui qui mange un mets extraordinaire avec des borborygmes de plaisir entre deux giclées de sang. Il le fallait et il mâchait. C'était pas du sang qui maculait sa barbe blanche. C'était du jus de dérision pour les valeurs incarnées en l'autre. Sur le point d'être malade, le frimeur se réfugia en bas. Alors que le pêcheur, visiblement heureux, finissait sa mastication et commençait à lever les filets de la bête sur la table de cockpit transformée en boucherie. Aux questions du frimeur, le skipper répondit que c'était une tradition très ancienne qui donnait une extraordinaire vigueur sexuelle à ceux qui s'y pliaient. Plus jamais le frimeur n'aborda le domaine de ses soi-disant exploits. Il pensait être tombé sur une tribu barbare héritière de traditions affolantes, des malades, une authentique bande de sauvages. Il ne mangea même pas un petit filet de cette superbe dorade. Il ne goûta même pas le poisson cru à la tahitienne. Il ne pouvait supporter l'évocation orale que le pêcheur faisait calmement pendant le déjeuner, de cette sensation qu'il semblait apprécier, celle du cœur vous sautillant sur la langue et libérant en vous comme en une onde de chaleur les forces vitales de la bête. Il ne supportait pas la vue des grosses mains velues du pêcheur cherchant dans la tête du poisson, les joues, le meilleur morceau de tout poisson. Ah les joues, olivettes de chair rosée nichées près de l'opercule. Le frimeur regardait l'autre, le breton généreux et taciturne, blanchissant et paillard, avec frayeur, jusqu'au bout du voyage. Un breton, un de ces irréductibles bretons. Le cœur bandant, comme il l'avait baptisé pendant cette traversée, resta l'un de leurs plus beaux gags. Le pêcheur lui-même avoua plus tard qu'il avait eu beaucoup de mal à ne pas vomir et à parvenir à avaler le machin sautillant. C'est pas évident de se créer des traditions débiles. Demandez au canard de Terre-Neuve ce qu'il en pense.